Ça a commencé dans la salle à manger, expliquait le capitaine Phil Leblanc au commandant Didi Warren. Phil portait un pantalon de toile et un polo à col blanc, agrémenté d'une tache de ketchup au-dessus du logo brodé. Manifestement, il se trouvait à un barbecue familial au moment où il avait reçu l'appel. Tout en parlant, il montrait la table rectangulaire, dressée pour six. Les assiettes portaient les reliefs d'un récent dîner et il y avait plusieurs plats vides au milieu de la table. Didi dénombra trois canettes de Bud Lights vides, deux à un bout de la table et la troisième à l'autre bout. Cette table était un meuble ancien, du chêne dans les tons chauds. Une belle table, aurait parié Didi, peut-être d'époque. Les chaises, en revanche, étaient pliantes, bleues, et qui appartenaient à la même série que celle de la véranda. Ainsi donc, les habitants avaient les moyens de s'offrir une table en bois massif, mais pas encore les chaises. Cela cadrait avec l'impression générale qui se dégageait des lieux, fraîchement repeints, mais notoirement vides. Les assiettes étaient en fine mélamine blanche, simple, mais tranchant sur les sets de table rouge vif et les serviettes en tissu bleu. De nouveau les couleurs nationales, un fil conducteur dans la maison. Peut-être qu'ils se sont disputés, supposa Phil. Ils ont mangé, pris quelques bières, et là, le ton est monté. Peut-être qu'elle a voulu partir et qu'il a disjoncté. Didi acquiesça distraitement tout en continuant à faire le tour de la table. Le parquet, rénové depuis peu, était revêtu d'un vernis brillant où se reflétait confusément la silhouette de Didi. Ils avaient fait des travaux. Et à vue de nez, ils mettaient la main à la pâte. Une famille modeste qui se construisait un avenir commun, s'efforçait d'aller de l'avant malgré la crise, jusqu'à ce que... « Où est Neil ?» demanda Didi, désignant par là le troisième membre de l'équipe. « En haut. Les deux niveaux supérieurs sont en chantier. On pense que tout s'est passé à sept étages, mais ça fait quand même un paquet d'outils électriques et d'objets tranchants à recenser. » Didi hocha la tête. Vu l'alerte rouge, elle s'était attendue à trouver les lieux grouillants d'enquêteurs. Or, c'était assez calme. Mais trois niveaux à fouiller, sécuriser et traiter, voilà qui expliquait beaucoup de choses. Et puis certains devaient déjà être ressortis pour conduire l'enquête de voisinage, localiser les proches connus. Sur ce genre de scène de crime, mieux vaut battre le fer tant qu'il est chaud. On met le paquet en termes d'effectifs, on débarque, on se déploie et on plie l'affaire. Que sait-on des occupants de la maison ? Une seule famille. Papa, maman et trois enfants. Un remariage des deux côtés, donc on ne sait pas encore très bien de qui étaient les enfants. Le chef de famille s'appelait Patrick Harrington. Né en 68, au chômage depuis peu, travaillait dans une quincaillerie qui a mis la clé sous la porte. Quand ça ? Nidhi s'accroupit pour examiner le tapis sous la table. Beige, récemment nettoyé à l'aspirateur. Une véranda fraîchement balayée, un tapis qui venait d'être aspiré. Elle ajouta « maniaque de la propreté » en dessous de « patriote » sur sa liste des traits distinctifs de la famille. Il y a quelques semaines, d'après le voisin, ils ont acheté la maison aux enchères il y a 8 mois, une vente forcée. Le but était de la retaper, certainement grâce à ses talents de bricoleur et au prix qu'on lui faisait à la quincaillerie, et ensuite de vivre dans une partie tout en louant le reste. Mais il venait de finir le rez-de-chaussée quand, boum, il perd son boulot. Fini le salaire, fini les prix à la quincaillerie. Et bonjour le monstrueux emprunt immobilier sans revenu locatif, conclut Didi. Ouais, un beau pétrin. Donc le couple est stressé, résuma Didi. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle ? Denise Harrington était réceptionniste dans un cabinet dentaire. Madame Nancy Sears, la voisine d'en face, dit qu'elle quittait tous les jours son travail à 15 heures pour être là à l'arrivée du bus des enfants. C'était sa priorité. Les âges ? Dit Phil en feuilletant ses notes. 9, 12 et 14. Garçon, fille, garçon. Didi hocha la tête et se détourna de la table pour se diriger vers la cuisine. Une poêle se trouvait encore sur la cuisinière. Elle sentait l'huile d'olive et la graisse de poulet. À côté, un énorme fait-tout, comme pour cuire des épis de maïs ou une ventrée de pâte. Encore des restes de la préparation du repas sur le plan de travail. Un demi-cœur de laitue, un sachet de carottes, un concombre à moitié coupé en rondelles. Didi chercha d'autres canettes de bière et en découvrit trois dans la poubelle. Elle ouvrit le réfrigérateur et le trouva relativement rempli, preuve que les courses avaient été faites récemment. Avec l'assortiment habituel de pain, œufs, charcuterie, fruits et légumes, repas mystère en boîte Tupperware. La porte contenait tout un assortiment de condiments et une bouteille à moitié vide de Pinot Gris de marque Cavit. Pas d'autre bière. Donc, à supposer qu'un pack de 6 ait été acheté, les 6 canettes avaient été bues. Mais 6 canettes de Bud à 2 adultes, ou même consommées principalement par l'un d'eux, cela ne suffisait pas à attribuer ce carnage à l'alcool. Didi ne marchait pas. Jack McCabe, police judiciaire, venait d'entrer. Il regarda les plans de travail couverts de nourriture, poussa un grand soupir. « On a photographié ça ?» demanda-t-il. « C'est fait, » lui assura Phil. Jack soupira encore. Didi ne l'en blâmait pas. Traiter cette scène allait être laborieux et très probablement infructueux, mais il n'avait pas le choix. « Commencez par le couteau, » lui conseilla-t-elle. « Il n'y a pas de couteau, » dit Jack en regardant le plan de travail. « Il y en a forcément eu un, » dit Didi en montrant les rondelles de concombre. « Oh, il y en a un de couteau, » dit Phil. « Et merde, » soupira Didi avant de le suivre dans le couloir. Ils rencontrèrent les premières traces de sang à mi-couloir. Elles commençaient sur le parquet verni et se poursuivaient vers le fond de la maison. Sans doute vers les chambres. Toute une série de taches et de traînées. Un homme en costume marron se tenait à côté de cette piste sanglante. Il dessinait apparemment un croquis des traces et plots de signalement correspondant. « Faut que vous voyez ça !» dit-il en encourageant Didi et Phil qui se rapprochèrent. Vous remarquez que les gouttelettes rayonnent en fait dans deux directions différentes et s'est traînées ici et là. Didi se baissa, observa docilement les traces. C'était pourtant vrai. La moitié des gouttelettes semblait avoir été projetée vers l'avant, l'autre moitié vers l'arrière, et de fait, il y avait deux traînées bien visibles, comme si on avait tiré deux objets sur le sol ensanglanté. Il l'a d'abord agressé dans la chambre, expliqua l'homme sur un ton factuel, en portant un premier coup. Mais elle lui a échappé et s'est enfuie dans cette direction. En vain, malheureusement. Il lui a donné un autre coup de couteau ? Demanda Didi, perplexe. Ça nous aurait laissé une éclaboussure en arc sur le mur et des projections, très probablement au plafond, selon la direction du coup. Il l'a juste attrapé, par les cheveux peut-être. Ensuite, il l'a traîné vers le fond de la maison, avec les autres, et il l'a achevé là-bas. Vous voyez, la première série de gouttelettes, c'est quand elle courait vers la sortie. La deuxième, quand elle allait dans l'autre direction. Et les traînées, la trace de ses talons, murmura Didi. C'est ça, faire un truc pareil à sa propre belle-fille. Il termina son croquis et tendit la main. Vous devez être le commandant Warren. Alex Wilson, je vais suivre Phil comme son ombre pendant un mois. Didi jeta un regard vers Phil qui haussa les épaules. Exact, je viens de l'apprendre il y a une petite demi-heure. Tu sais ce que c'est, on est toujours les derniers au courant. Didi prit la main tendue, méfiante. Et quelles sont vos fonctions ? Enquêteur, à une époque. Il y a de ça 8 ans, j'ai renoncé au travail de terrain pour enseigner à l'école de police. Mais je me sens un peu rouillée, alors j'ai demandé à suivre un enquêteur de temps en temps pendant un mois. 8 ans, ça fait un bail dans ce métier. Avec tous les progrès de la photo numérique et la prise d'empreintes digitales numériques, je commence à me faire l'effet d'un dinosaure. Vous travailliez dans la police de Boston il y a 8 ans? Non, à Amherst. Pourquoi? Pour parler. Didi continua à le dévisager. Elle lui donnait la petite quarantaine, un âge désagréablement proche du sien dans la mesure où il venait de se qualifier de dinosaure. Il n'était pas immense, dans les 1m80, encore relativement en forme. Ses cheveux bruns étaient généreusement parsemés de mèches argentées et le coin de ses yeux bleus se plissait quand il fronçait les sourcils. Le George Clooney du pauvre. Cela ne laissait pas Didi insensible. Alex Wilson d'Amherst, hein? Il va falloir qu'elle se renseigne. Très bien, professeur, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous montrer? Je crois que ça a commencé par la femme. Alex les guida dans le couloir, en longeant le mur pour ne pas marcher sur la piste ensanglantée. Peut-être qu'ils ont commencé par se disputer pendant le dîner, je sais pas. Mais il l'a suivie dans la chambre, et il l'a attaqué par derrière. Là, ça n'a pas traîné. Un coup violent qui lui a sectionné la colonne vertébrale à la base du crâne. Même si elle a vécu assez longtemps pour crier, le coup a dû la paralyser. Elle est tombée à genoux et son cœur s'est arrêté avant qu'elle se vide de son sang. Alex entra dans une pièce à droite. Didi se retrouva dans une chambre d'assez belle taille, meublée d'un lit king size et de deux commodes dépareillées qui semblaient avoir été achetées dans un débarras. Le lit était recouvert d'un vieux dessus de lit à fleurs. Deux draps roses tenaient lieu de rideaux. Sur la plus grande commode, une collection de photos, dont une en grand format montrait une mariée blonde radieuse et un marié brun tout sourire. Par terre, au pied de la commode, on ne pouvait pas manquer la flaque sombre qui recouvrait au moins une dizaine de lattes, ce qui restait de la mariée blonde, certainement. « Où est le corps ?»« Vous verrez, » dit Alex. Il les ramena dans le couloir, enjamba précautionneusement les traces de sang et passa dans la chambre suivante. Celle-ci était plus petite, d'un bleu soutenu. Des posters de Tom Brady tapissaient tout un mur, tandis que des rangées d'étagères garnies de ballons de football dédicacés et de divers trophées sportifs occupaient les autres. À droite, un lit double recouvert d'une couette aux couleurs des Patriotes. Droit devant, une table à jeu qui semblait faire office de bureau et dont la chaise en métal était un peu écartée. À côté de la chaise, sur le sol, une autre tache sombre. « Le fils aîné, » expliqua Alex. « Peut-être qu'il a entendu le remue-ménage dans la chambre de ses parents. Il s'est levé pour aller voir. » « À en juger par les trophées, le gamin est sportif, et en plus il est assez grand pour son âge. Après la mère, c'est logiquement la menace la plus sérieuse. Donc le sujet entre dans la chambre, d'un pas vif et décidé. Le gamin est sans doute encore en train de se demander ce qui se passe, quand il le poignarde entre les côtes, en plein cœur. »
Un seul coup mortel ici aussi, intervint Didi.
Pour ces deux-là, oui.
D'abord dans la nuque et ensuite entre les côtes.
J'ai comme l'impression que le sujet a de l'entraînement.
Force spéciale, je dirais. Poignarder, ça fait du vilain, mais ce type a élevé ça au rang de science.
D'accord, reprit vivement Didi. Maman est au tapis, le fils aîné est au tapis, et ensuite...
Il en reste deux. Une fille de 12 ans, un garçon de 9.
Il espérait sans doute s'en occuper un par un, mais il se trouve qu'ils étaient tous les deux dans la chambre de la fille. Alex quitta la chambre bleue et ils reprirent le couloir en file indienne. Cette fois-ci, la piste sanglante fit un virage et les conduisit dans une chambre rose vif avec une cantonnière violette à la fenêtre et une demi-douzaine de posters d'Anna Montana et des Jonas Brothers.
Bon, ici les choses se compliquent un peu, comme vous voyez.
Alex montrait le sol, qui présentait une étourdissante constellation de projections, flaques de sang et plots de signalement jaune.
Je dirais, juste en voyant l'état des corps, qu'il a tué le garçon en premier.
Pourquoi le garçon ?
Une seule blessure mortelle. Regardez le lit.
Didi s'aperçut avec retard que la couette violette n'était pas réellement violette. Elle était rose foncé, mais la couleur d'origine avait été altérée par une flaque de sang de belle taille et les traces de projection correspondantes dessinaient un arc sur le mur d'en face.
« Les gamins savent, » reprit Alex d'une voix plus douce, moins professorale. « Pas de placard dans la chambre, alors ils se blottissent dans le coin. Frères et sœurs ensemble, prêts à défendre leur vie. Le sujet entre. Il devait faire peur à voir à ce moment-là.
Couvert d'éclaboussures depuis le premier coup de couteau, sans parler du deuxième,
les gamins se tiennent l'un contre l'autre, à côté du lit.
Le garçon a craqué le premier, c'est mon hypothèse, continua Alex. Il a essayé de filer en sautant sur le lit. Peine perdue, l'autre lui a tranché la gorge au passage. Fin de la partie. La gamine est probablement en train de hurler à ce moment-là, mais elle ne reste pas figée, ce qui est étonnant. Devant une telle scène, la plupart des gens...
La voix d'Alex s'éteignit, puis il se racla la gorge et poursuivit.
La fille s'enfuit, elle profite de la mort de son frère pour se ruer vers la sortie. De toute la famille, elle est la seule qui aura eu une chance.
« Il la blesse, ici précisément, » dit Alex en montrant une tache ronde avec son crayon.
« Peut-être qu'il visait la gorge, mais il la touche à l'épaule. Le coup la déséquilibre, d'où les traces de transfert ici et là, sans doute ses semelles, mais elle continue à courir, la malheureuse. Elle arrive jusqu'à mi-couloir, c'est le sprint de sa vie, et là...
Il la rattrape, conclut Didi qui marqua une pause.
Mais il ne la tue pas, il l'entraîne ailleurs.
Qui sait, dit Alex. Elle était la dernière et il l'avait mise hors de combat.
Peut-être qu'il s'est rendu compte que rien ne pressait. Ou peut-être qu'il a juste voulu la faire souffrir encore un peu. Elle avait fui, ça l'avait énervée.
Agression sexuelle ?
Demandez au légiste, les vêtements sont intacts, rien de flagrant.
Vous pensez que c'est la belle-fille ? Tout le portrait de la mère, aucune ressemblance avec le père.
Donc son but était peut-être de nature sexuelle. Elle l'attirait, il la voulait pour lui tout seul.
Alex regarda Didi. Venez, je vous montre le reste. L'arrière de la maison donnait sur une véranda grillagée. Le genre d'endroit où se prélassaient par les soirées d'été infestées de moustiques. Manifestement, cette partie de la maison n'avait pas été incluse dans les plans de rénovation. Plusieurs pans de grillage avaient été déchirés, les bords des dalles de lino se décollaient, mais ça, ce n'était rien. Le revêtement de sol délabré était à présent couvert de sang, tandis que sur l'unique meuble, un futon déglingué, toute une famille avait reposé, expliquait Alex. Il les a couchés côte à côte. D'abord la mère, ensuite le fils aîné, la fille, le plus jeune. Alex montrait le matelas trempé de sang où bourdonnaient maintenant des mouches attirées par l'odeur de chair fraîche. « Les corps sont chez le légiste ?» demanda Didi.
« Oui. Entre la chaleur et les mouches, la levée des corps était une priorité. »
« Mais vous dites que la fille a été tuée ici, sur le futon, je pense. »
Faudra que le légiste fasse son examen, mais il semble qu'il l'ait amenée ici avant de l'étrangler à main nue. Patrick est baraqué, ça n'a pas dû lui prendre trop longtemps.
Ensuite, il a déplacé tous les autres corps.
Dans cet ordre-là, je dirais. Il aura d'abord voulu régler le cas de la fille avant de faire un peu de ménage.
Didi fit la moue, ça ne lui plaisait pas. D'après vous, le sujet a transbahuté 3 corps dans toute la maison jusqu'à 7 pièces.
Pourquoi on ne voit pas plus de sang ? J'aurais cru qu'on verrait des traces partout.
Alex ne savait pas.
Le légiste pourra vous en dire plus, mais j'imagine que les corps s'étaient déjà vidés de leur sang. Comme ça, l'opération ne fait pas de saleté.
Je comprends pas, contesta Didi.
On parle bien du père, non ?
D'abord, il massacre tous ses proches un par un, et ensuite il les regroupe pour une dernière réunion de famille.
Je pense qu'il voulait s'excuser.
Pardon ?
Si on part de l'idée que le père est coupable, alors il entre dans la catégorie des familicides. Bon, il est possible que ça ait commencé sur un coup de tête. Il s'est disputé avec sa femme et ça a dégénéré. Mais peut-être pas. Peut-être que c'était ce qu'il avait prévu depuis le début.
Réfléchissez un peu à la psychologie des familicides. Pourquoi tue-t-il ?
Didi le regarda.
Je ne sais pas. Pourquoi ?
Parce qu'il pense rendre service à leur famille.
Maintenant que vous le dites, c'est aussi pour ça que je suis célibataire.
Alex eut un sourire ironique.
Les temps étaient difficiles. Je parie que si on creuse, on découvrira que leur situation financière était encore plus mauvaise que ça. Peut-être qu'ils étaient menacés de saisie, qu'on allait les jeter sur le trottoir. La pression monte. Le père commence à se dire que ce serait aussi bien qu'il meure, mais il ne veut pas faire souffrir sa famille. Alors l'idée lui vient que ce serait aussi bien si eux mouraient. Ce serait trop cruel de se tuer tout seul. Donc il va faire ce qu'il y a de mieux pour eux. Il va tous les tuer.
Punaise, dit Didi.
Les yeux baissés vers le sol barbouillé de sang, elle chassa une énième mouche bourdonnante.
Il les supprime un par un. Ensuite, il les transporte tous ici et les couche les uns à côté des autres.
Peut-être qu'à ce moment-là, il prie pour eux. Ou bien il leur donne l'absolution. Il leur fait un petit discours déjà tout près dans sa tête. « Je vous aime, je ne veux que le meilleur pour vous, je vous revois bientôt. » Et ensuite, il prend le 22 et s'en envoie une dans la tempe.
« Il s'est tiré une balle ?» intervint Phil. « Quel dégonflé !»«
Pas faux, surtout qu'il s'est raté. »
Didi n'en crut pas ses oreilles.
« Vous voulez dire ?»«
C'est ça. Le père est sur le billard en ce moment même au Massachusetts général. » Avec un peu de chance, ils le sauveront.
Et là, on pourra le coincer. Le père est encore en vie, murmura Didi. Elle regarda le sang, chassa les mouches avides et finit par sourire, avec un petit air carnassier. Je crois qu'on va peut-être pouvoir s'amuser un peu, en fin de compte. Il retournait vers l'avant de la maison et passait devant la salle à manger lorsque l'idée la frappa. Elle s'arrêta net. Avec un temps de retard, Phil et son ombre en firent autant. « Eh, professeur, dit-elle, j'ai une question pour vous. » Alex, étonné, attendit. Donc, le père tue la mère, le garçon de 14 ans, celui de 9, la fille de 12, et ensuite il se tire une balle dans la tempe. C'est la théorie actuelle, oui. Au vu des traces de sang. Au vu du premier examen des traces de sang, oui. Une analyse impressionnante, très bien menée. Je vois d'ici que vous faites des étincelles dans les salles de classe. Alex ne dit pas un mot, confirmant ainsi qu'il était bien aussi intelligent qu'il en avait l'air. Seulement, il y a un autre indice de taille. C'est-à-dire, la salle à manger. Alex et Phil se tournèrent vers la salle à manger. Phil fut le premier à poser la question. Quoi, la salle à manger ? Alex, en revanche, comprit. Merde, dit-il. Oui, c'est toujours un peu plus compliqué qu'on ne voudrait, confirma Didi en se tournant vers Phil. On a 5 corps, n'est-ce pas ? 4 morts, le dernier dans un état critique. 5 corps pour les 5 membres de la famille. Phil acquiesça. Alors, pourquoi le 6e couvert ?